car les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédons petits bourgeois de la bonne santé suffit.
Et tu sais ça?
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les... Non.
Mais qu'est-ce qu'il y avait des valeurs dans cette galère?
Ça fait raison, mais hâtez-vous!
Qu'y avait-il quoi d'autre problème?
Cela est vrai, mais faites promptement, maudite galère!
Alors, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans votre numéro du mois de février de Scène de vie, vie de scène, l'émission qui prend son temps. Bonjour Cécile, bonjour Nathalie.
Bonjour JC.
Bonjour JC.
Nous rappelons que cette émission Scène de vie, vie de scène est une coproduction de la scène nationale Évreux-Louviers et de Principe Actif. C'est important de le souligner parce que pour nous, ça fait plaisir de se croiser. Au sommaire de cette émission, nous parlerons de Richard III et même nous écouterons Richard III normalement.
Oui, à travers un petit teaser extrait du spectacle et puis l'occasion du coup de présenter cet événement théâtral que nous accueillerons fin février à Évreux.
Nous parlerons également du temps où les arbres parlaient.
Et nous accueillons pour présenter le travail de la compagnie Trace, son directeur artistique et le metteur en scène, Jefferson Desmoulins. Bonjour Jefferson.
Bonjour.
Nous poursuivrons en parlant de résidence, notamment.
Alors, toujours notre invité Jefferson Desmoulins, qui est actuellement présent sur Évreux à la scène nationale pour un spectacle, mais également qui enchaînera avec une résidence de création avec l'ensemble de sa compagnie. Et nous pourrons discuter de ce que couvre une résidence d'artiste.
Nathalie, tu as également rencontré l'équipe de Mathieu Tessonnière qu'on connaît bien pour être passé plusieurs fois nos micros.
En fait, le thème principal de l'émission étant la résidence de création d'une compagnie, on a voulu un peu compléter et mettre aussi en perspective deux compagnies qui sont en résidence ou qui vont l'être prochainement sur le territoire, sur Évreux. Et Mathieu Tessonnière avec Nicolas et Ivana, qui sont des professeurs au conservatoire à vocation à rayonnement départemental d'Évreux, sont actuellement sur un gros projet entre musique, percussion, danse et musique amplifiée sur Évreux. Donc nous pourrons les entendre.
Exactement. Nous proposerons également l'agenda non exhaustif de ce mois de février et nous terminerons avec un extrait de film. Mais tout de suite, sans plus attendre, je vous propose que nous écoutions notre traditionnelle prise de son, un moment de vie.
Coupé. Ok. Donc là, on a fait la séquence 2 qui va consister à voir une petite contrée. Alors moi, vous savez, je pourrais pas mettre le rythme aussi au stage. Je pourrais légèrement le ralentir, mais c'est vrai, c'est devant. Et là, le rythme t'arrive. Mais va. Copine. On a besoin de toi.
Attends, vous allez boire.
Non, ouais, comment tu l'intègres, la copine? Parce que si tu sais combien de cadence tu fais la copine, tu vas voir mes cheveux et tout.
Je te place.
Non, mais c'est juste un plan pire. Justement, c'est le moment où on se rend compte que t'es maîtrisé comme tu ok.
Non,
c'est
bien,
parce que je suis comme ça, donc.
Non, mais non, c'est plus cher comme ça.
Mais ça va écouter, moi j'ai ma gueule.
Donc là, attends, je suis content de garder.
Mais il faut que je vous gère.
J'aimerais bien que les autres s'énervent.
Les gars, oh, s'il vous plaît, nous.
C'est énorme, c'est énorme. Non, mais en fait, il n'y a pas besoin de copine, il faut juste faire ça. Regarde, vas-y, refais-le. C'est validé. C'est validé.
Okay.
On reste sur un plan avec un seul personnage.
Tu tires, tu
Alors, JC, où as-tu été laisser traîner ton micro? Et là, on sent qu'il y a des jeunes, un travail collectif.
Exactement. Alors pour la petite histoire, ce n'est pas moi qui ai traîné mon micro. C'est un groupe de jeunes lycéens internes du lycée Porte de Normandie à Verneuil-sur-Avre. Tous les jeudis, nous les retrouvons au silo de Verneuil-sur-Avre pour 5 ateliers. Il y a un atelier radio, bien entendu. Il y a un atelier clown, un atelier art plastique, un atelier programmation et un atelier réalisation de court-métrage. C'est ce que nous écoutions là à l'instant. Du coup, l'équipe radio, 3-4 jeunes de l'équipe radio sont partis faire des prises de son sur les ateliers et là vous écoutiez un moment de vie de cet atelier court-métrage. Alors c'est entièrement réalisé par une dizaine de jeunes également, cet atelier court-métrage, et sur l'espace de on va dire de 3 mois, en se voyant 1h30 tous les jeudis, eh bien à l'issue de ça, le 18 mars sera présenté le court-métrage au silo à Verneuil-sur-Avre, le 18 mars étant la grande journée de valorisation de ce moment. Et je suis en train de dire des bêtises car je crois que ce n'est pas le 28 mars.
Le 18 mais, ou le 28 le,
pardon, le, bah voilà, vous voyez, c'est,
c'est, je un m'en sors pas.
C'est un 8, exactement. Non, ça va être... je suis parti beaucoup trop loin, excusez-moi, parce que c'est important que je vous donne la date, parce que c'est un gros travail de valorisation qui est réalisé et par ces jeunes. C'est le jeudi 31 mars à Verneuil-sur-Avre.
Et excuse-moi, j'y sais, du coup, c'est la valorisation de tous les ateliers.
Il y aura donc la couverture radio de cet événement. Il y aura des scénettes clownesques qui vont être faites par les jeunes qui ont travaillé sur ce thème-là. Il va y avoir la présentation des fresques, des réalisations. Alors c'est en 3D, c'est en volume, c'est avec des cartons, de la peinture. C'est un atelier animé par Walter Séné. Il va y avoir la programmation de cette soirée qui va être réalisée par le groupe Programmation. Et les fameux courts-métrages qui seront projetés également durant cette soirée.
Et menés par quel intervenant pour les ateliers de courts-métrages et de réalisation ?
Alors c'est Thomas, l'animateur multimédia du silo de Verneuil-sur-Avre.
Donc retransmis en direct sur Principe Actif, du coup, cette soirée de valorisation ?
Exactement.
En direct,
exactement.
Sur les ondes.
Et animé par les jeunes.
Par les jeunes du silo, ok. Enfin, oui, du projet.
Exactement. On avance. Avec une petite virgule.
Eh bien oui.
Bah non, c'était pas une virgule qui partait.
On peut même lancer la
première. Petite virgule. Et puis la première pause musicale
voilà,
qui suit derrière.
Parfait.
Guess who's so bold but says this is not? That is the world that none will come to now. I'm a dog, I'm a turd, I'm a hedgehog. A far stigmatic, these are dreadful things.
I'm a dog, I'm a dog, I'm a hedgehog.
A bug and spider, I am a monster!
I bless it down, I bless the crown down.
The devil.
watching life in the past. But it's the world that nobody comes to. Now I'm a dog, I'm a turd, I'm a hedgehog. A far stigmatic, these are dreadful sting. I'm a dog, I'm a turd, I'm a hedgehog. A bothered spider, I am a monster.
Dog, pardon, donc c'était c'est le teaser avec, on peut peut-être appeler ça, bande originale de Richard III. La musique est de Clément Mirguet et l'interprétation est de Thomas Joly, donc qui est aussi metteur en scène et comédien dans La Piccola Familia. Voilà, c'était en furetant un peu sur Internet, c'est vrai que La Piccola Familia a une grosse, grosse activité sur les réseaux sociaux, donc on chope pas mal de choses comme ça à propos de leur nouveau spectacle, Richard III, qui n'est autre que la suite du fameux Henri VI, voilà, les 18 heures de théâtre dont nous avons beaucoup parlé la saison dernière et qui a fait événement. Et Richard III est donc la suite tant attendue de cette trilogie, enfin même quadrilogie, enfin je sais même plus comment on dit.
Oui, on peut parler de quadrilogie pour la compagnie, puisqu'ils ont fait en...
Il y a quatre Henri VI, quatre épisodes.
Et là, la cinquième... avec le Richard III.
Voilà. Donc, on l'attend. Ce sera accueilli à Évreux à la scène nationale le 26 février. Je pense que, spectateurs, nous serons très surpris par, comment dire, par l'esthétique de cette mise en scène du Richard III. Comme vous avez pu le deviner avec cet extrait sonore, je pense que ce sera résolument punk, résolument,
gothique.
Gothique, merci Nathalie.
On voit qu'il y a du noir, du blanc, des plumes, des traces noires sur les visages. La musique, puis le personnage est assez gothique et fait peur, hein, ce Richard III qui est assez monstrueux et sanguinaire.
Je pense qu'il est allé vraiment dans ce sens-là de ce personnage. Voilà, à découvrir. Il y a aussi, c'est vrai que la Piccola travaille énormément avec toutes les nouvelles technologies et je pense que Richard III en sera la preuve et l'apogée de l'utilisation de toutes ces nouvelles technologies, des nouvelles lumières laser, des installations avec un plateau qui bouge, etc., etc. Je pense que ça va être spectaculaire au sens propre du terme. Voilà, donc Richard III par la Piccola Familia le 26 février.
Nous accueillons maintenant Jefferson Dimoulin, directeur artistique et metteur en scène de la compagnie Trace. Bonjour Jefferson et merci d'être avec nous ce midi sur ce plateau. Nous tenions à vous inviter pour faire connaître le travail également de votre compagnie Trace. Vous êtes implanté en région sur Rouen, mais présent sur l'ensemble de la Normandie et plus particulièrement en ce moment, sur ce mois de février, à la scène nationale Évreux-Louviers, où vous présentez, jusqu'à ce soir d'ailleurs, votre spectacle « Du temps que les arbres parlaient ». Alors, compagnie, là vous proposez un spectacle jeune public. Mmh. Voilà, on pourra en dire deux mots sur le spectacle, sur ce projet-là, et notamment après sur la continuité de comment une compagnie sans lieu à part entière peut travailler justement sur ses prochaines créations. Mmh. Mais peut-être tout d'abord vous présenter. Jefferson, vous
Moi.
Voilà.
oui, enfin, voilà, donc moi je suis metteur en scène et donc directeur artistique de la compagnie. C'est une toute jeune compagnie. Ça fait 5 ans qu'on existe. J'ai créé la compagnie en sortant d'école en 2010. Après une école d'acteurs, parce que je tenais à faire une école d'acteurs pour être metteur en scène. Et voilà, j'ai fondé cette compagnie pour commencer à développer les premiers projets de mise en scène. On est à 4 projets à l'attractif. Un premier projet qui s'appelait Encore Vide, qui était dans lequel je jouais, qui était un solo que j'avais écrit également, donc dans lequel je jouais et je dansais, qui était comme une façon à la création de la compagnie d'aller véritablement éprouver le plateau tout seul avant de complètement le quitter. Ensuite a suivi Electre ou la furie des chiennes, qui était une adaptation du mythe d'Electre entre Eschyle et Sophocle, avec une retraduction, un gros travail de montage entre les deux auteurs, et qui était déjà un vrai premier partenariat avec la scène nationale Évreux-Louviers, puisque c'est chez vous qu'on l'a créé en janvier 2013. Après ce projet-là, j'ai eu envie, voilà, de travailler un spectacle sur le jeune public, enfin qui s'adresse au jeune public, et donc qui s'appelle Du temps que les arbres parlaient, qu'on a créé en octobre 2014, la saison dernière, qui est un duo entre un arbre et un enfant qui est tout seul, son père est parti, sa mère s'enferme dans la salle de bain. Il est tout seul, il n'a personne avec qui échanger, parler, grandir. Et donc il va convoquer presque un arbre, interpeller un arbre qui lui aussi est tout seul sur la plaine, pour échanger avec lui, pour parler avec lui et pour grandir avec lui. L'enfant, n'ayant personne, voilà, avec qui parler, dit: je veux partir, plus sentir, me fondre comme le sucre dans le café, disparaître. Et voilà, et c'est une Clément Longueville et Simon Vial qui jouent tous les deux respectivement l'enfant et l'arbre, crée véritablement une très belle relation d'amitié qui se crée au fil des journées qui rythment la pièce. Jusqu'à ce que l'enfant peut-être éprouve vraiment ce que c'est que de disparaître, pour peut-être renaître davantage à l'issue du spectacle.
C'est la première création jeune public de la compagnie. C'était après Electre ou la furie des chiennes, il y avait un besoin de revenir peut-être à des choses. Alors, est-ce qu'on peut dire plus simple pour du jeune public? Je ne suis pas sûre, mais à quelque chose de plus terre à terre, peut-être, de plus franc, de plus direct dans le rapport au public?
D'une part, et puis il y avait cette très très grande envie après Electre de travailler une petite forme. Bon, c'est finalement pas vraiment une petite forme, mais
le décor n'est pas une petite forme.
Mais de travailler un projet où on se concentre vraiment sur deux personnages, sur une histoire, et avec une relation d'intimité, j'ai envie de dire qui se crée quelque chose. J'avais envie de quelque chose de doux, à la fois pour le spectateur. J'avais besoin de quelque chose de qui fasse du bien, en fait. Mais je crois aussi pour moi, pour l'équipe, pour le travail, pour la compagnie, voilà.
Oui, comme cette étape, comme si cette étape de douceur était finalement une marche nécessaire qui consolide le futur travail de la compagnie, c'est cela ?
Complètement, parce que voilà, les trois projets de la compagnie, donc Encore Vide, Electro la Furie des Chiennes et Du Temps que les Arbres Parlaient, tous gravitent autour d'une question, qui est la question de l'hérédité qui a traversé donc ces trois premiers projets de la compagnie, qui interroge du coup ce que nos parents nous lèguent. Comment se construit-on, comment devient-on adulte, comment se construit-on en tant qu'adulte, en tant qu'être à part entière, à partir d'un legs familial ou pas, ou sociétal aussi parfois. Voilà, comment on fait et voilà, les deux premiers projets, Encore Vide, Electre ou la Furie des Chiennes, c'était des projets plutôt sombres. Disons ça. J'avais envie, avec Du Temps que les Arbres Parlaient, qu'il y ait une lumière qui s'allume à la fin. Et mine de rien, voilà, il y a un virage qui s'effectue maintenant avec les prochains projets de la compagnie.
Ce que je sens également, c'est sur ce parcours compagnie, cette étape-là, c'est aussi, ça mesure le travail, l'effort, l'investissement, l'énergie que doit déployer une compagnie, une jeune compagnie, pour mener ses projets. Ou ce que j'entends aussi de vos propos et du sentiment qui s'en dégage, c'est que on investit beaucoup, c'est beaucoup d'énergie, et qu'à un moment, même tout en continuant le travail, on a besoin de temps un peu plus reposant, un peu plus reconstructif. Je rebondis du coup sur jeune compagnie pour créer des spectacles. J'entends que on doit déployer énormément d'énergie, de moyens, d'astuces peut-être, pour pouvoir mener à bien ces projets. Donc là, je rebondirai plus sur la compagnie en tant qu'activité pour construire ce tel projet, metteur en scène. Comment on s'entoure, on s'accompagne, avec quels moyens, avec quelles difficultés également sur ces parcours-là.
Je pense qu'il y a plein d'histoires de compagnies, et peut-être autant qu'il existe de compagnies. C'est vrai que nous, la compagnie, c'est au départ, c'est construite, c'est déconstruite, c'est reconstruite, et enfin là, on arrive à un moment où ça y est, la compagnie a une équipe, on se stabilise, on se professionnalise vraiment. On a maintenant un vrai pôle administratif qui est en place. Artistiquement, maintenant, il y a les gens nécessaires, créateurs lumière, régisseur général, créatrice son, vidéaste, etc. Enfin, voilà ça. Donc, effectivement, l'énergie qu'on a à dépenser pour créer un spectacle est beaucoup plus répartie maintenant. Après, effectivement, jusqu'alors, c'était pas le cas. Là, maintenant, ça devient vraiment le cas avec les nouveaux projets de la compagnie. Comment ?
Oui, c'est beaucoup plus structurant. Voilà, du coup, je me mets dans la position d'un metteur en scène ou directeur artistique, beaucoup plus peut-être dans une disposition aussi pleinement à cette direction. Enfin voilà, chacun va dans ce qu'il a à faire, voilà, dans le sens d'un projet que vous dirigez.
Voilà, effectivement, maintenant chacun, on a tous la même ligne, on a tous le même axe, et voilà, on s'oriente tous vers la même direction, avec une ligne évidemment qui est distribuée, qui est donnée, que je donne le cap. Quoi. Voilà, après toujours, et je pense que, et j'espère en tout cas, que même quand on grandit, même qu'on se structure encore, qu'on doit toujours rester dans cette position où on a des grands rêves, on a des grandes envies, mais on n'a pas forcément les moyens, qu'ils soient techniques, qu'ils soient financiers, qu'ils soient humains, pour les réaliser. Et du coup, il faut trouver plein d'astuces, plein de nouveautés, plein de... Voilà, Du Temps que les Arbres Parlaient, absolument pour nous. Maintenant, on a une beaucoup plus grosse équipe, mais j'espère en même temps, parce que c'est de là aussi qu'il y a du vivant et de la création,
et de l'échange aussi, hein.
D'échange, du défi, du défi, je voudrais
de la stimulation,
voilà, ça marche pas, ça on peut pas, on n'a pas les sous, on n'a pas les moyens, et qu'est-ce qu'on fait, trouvons une autre solution, quoi. Ne dormons pas, trouvons une autre solution.
Alors justement, avant de rentrer
rentrer dans le vif du sujet de ce qu'est une résidence de création pour une compagnie, je vous propose de faire une petite pause musicale et puis de revenir justement sur toutes ces motivations, toute cette énergie, toutes ces petites trouvailles à avoir en tant que compagnie, voilà, voir comment on travaille. Jefferson, vous nous avez, comme tous nos invités, apporté une petite pause musicale. Je vous laisse l'annoncer.
Ouais, c'est un musicien qui s'appelle Olafur Arnalds, qui est un musicien du Nord, je dirais pas le pays parce que je dirais une bêtise, je sais plus exactement d'où il est, Norvège, Suède, je sais plus, et le morceau s'appelle This Place Was a Shelter.
This place was a shelter. Jefferson, je vous laisse nous redonner le nom de l'artiste.
Olafur Arnalds.
Merci beaucoup. Donc, on le disait à l'instant, vous serez en résidence de création à partir de la semaine prochaine à la scène nationale Évreux-Louviers, au Cadran plus précisément. Déjà, est-ce qu'on peut juste se rappeler comme ça, qu'est-ce que c'est qu'une résidence de création ?
Une résidence de création, c'est une équipe artistique qui va poser ses valises dans un lieu pour travailler un projet, avec ou pas une sortie de résidence, avec une présentation publique ou pas. Voilà, pour commencer, parfois continuer, d'autres fois, ou finaliser la création d'un spectacle. Donc c'est le temps des tentatives, c'est le temps des essais, c'est le temps des tests, ou c'est le temps du travail. Vraiment, c'est vraiment la compagnie est au travail, quoi. On cherche, on a un texte, on a un propos, on a une ligne esthétique, artistique, et comment on fait se rencontrer les différents éléments, qu'il s'agisse du jeu, du son, de la lumière, de la scénographie, de la technique, enfin voilà.
Et alors là, concrètement, on en est à quel moment, du coup, pour votre prochaine création, cette résidence, elle intervient à quel moment de cette future création ?
Là, la prochaine résidence, elle intervient au tout début, vraiment. Ce seront les premiers jours de travail plateau. Alors, on a eu déjà 4 jours de travail, travail de lecture à la table sur le texte, mais là, ça va être les premiers temps de plateau, les premiers temps d'expérimentation et de montage du spectacle, quoi. Il va commencer à naître à partir de la semaine prochaine.
Oui, parce qu'on n'a pas dit, vous serez en résidence sur un spectacle qui s'appelle La Reine des Neiges, et comme son nom ne l'indique pas du tout, ce n'est pas un spectacle à destination du jeune public.
Voilà, alors ça va être une résidence effectivement à partir du conte d'Andersen, donc l'auteur danois, à partir du conte d'Andersen, La Reine des Neiges. Et pour le moment, on dit La Reine des Neiges comme ça rapidement, mais il y a toute une réécriture, toute une adaptation du texte qui est en train d'être faite. Et du coup, je pense que le spectacle ne s'appellera pas La Reine des Neiges, pour justement pas qu'on confonde avec le succès de Disney d'il y a 2 ans.
Je suis pas du tout de quoi vous parlez.
donc là, sur ce travail, la compagnie a engagé depuis septembre dernier un travail sur un triptyque qu'on appelle le triptyque du rêve. La première création a vu le jour en octobre dernier. Ça s'appelle À quoi tu rêves, et La Reine des Neiges est donc le deuxième volet du triptyque. Et la compagnie prend un virage avec cette trilogie, qui est le virage du numérique. Voilà, c'est-à-dire que maintenant on a, comme on disait tout à l'heure, comme on évoquait tout à l'heure, maintenant on a potentiellement les moyens d'intégrer le numérique, d'intégrer la vidéo, le son, du mapping, qu'il soit vidéo ou sonore aussi. Il va y avoir une grosse spatialisation du son dans ce spectacle. Enfin voilà, et du coup là, clairement, la résidence elle se décompose en deux temps. La semaine prochaine ne sont présents que les techniciens dans le travail, c'est-à-dire qu'on a le constructeur, l'éclairagiste, la créatrice son et le créateur vidéo qui sont là, et on va commencer à mettre en place toutes les images, tous les tableaux du spectacle, et ensuite la deuxième semaine arrive l'équipe d'acteurs pour qu'on commence à faire s'échanger plateau, technique et jeu, quoi.
Dernière question par rapport à la résidence de votre compagnie à la scène nationale, c'est quels sont les apports de la structure qui vous accueille en résidence, du coup, pour vous permettre, ne serait-ce que le lieu, c'est vraiment déjà
principal. Pour nous, c'est énorme, évidemment. Déjà, le lieu est énorme, et c'est bien parce que ça va être la première très grande forme de la compagnie. Enfin, là, on est sur une ouverture de plateau à minimum 14 mètres. Enfin, voilà, on passe à une autre échelle. Donc déjà, ça, c'est génial d'avoir un plateau de cette dimension-là. Souvent, et c'est très bien, moi j'en ai été ravi pour démarrer, de commencer sur des petits espaces, de se faire la main sur des petits espaces. Là, maintenant, voilà, il y a des envies de plus grand, donc voilà, déjà le plateau du cadran qui fait, je crois, 14 mètres d'ouverture quand il est pentrillonné, et quand il n'est pas pentrillonné, 18 mètres. Voilà, on va se contenter de 14 pour le moment, on ne va pas créer un opéra tout de suite. Et puis après, tous les moyens techniques et l'infrastructure, c'est un lieu qui a du personnel, qui a des moyens techniques qu'évidemment nous n'avons pas, et même si on avait un lieu qu'on n'aurait jamais, on va pouvoir profiter de ça pour essayer des choses. Après, on a déjà eu des expériences de résidence ici où il y a eu d'autres choses où ça nous a permis d'autres choses, notamment des tests sur Du temps que les arbres parlaient. On était aussi venus en résidence à la scène nationale évoluée, et on avait fait une sortie de résidence avec 90 enfants pour tester justement le travail. Donc c'est juste essentiel pour nous d'avoir ces temps-là.
Et nous précisons que c'est vrai que la scène nationale, ça fait aussi partie de ces missions de soutien à la création artistique d'aujourd'hui et aux artistes d'aujourd'hui. Merci Jefferson Desmoulins pour votre présence. Et pour ceux qui veulent poursuivre, je vous conseille de venir voir ce soir au cadran Du temps que des arbres parlaient. La séance est à 19h30 ce soir.
C'est ça, 19h30.
Voilà. Et venez en famille.
Nous poursuivons cette émission en vous proposant une pause musicale blues. Je fais une petite explication juste avant que nous la diffusions. C'est Sissy Steve, et ce que vous allez écouter, c'est réalisé avec une guitare de sa confection sur une planche à laver. Vous savez, les petites planches à laver métalliques. Et c'est une guitare d'à une corde. Voilà, Sissy Steve avec sa guitare planche à laver à une seule corde.
Yeah. we back in the game. We be rolling, y'all. Yeah, we back in the game now. Yeah, we be rolling. Oh, we been on that stage, gonna play you my very best show. We all part of Roar's gang. We travel tight and low. We talk the talk and we walk the walk. Don't believe it, come to the show. But lead me to the place where I can play. I prop me up on my shoes. We play some muddy get down music. Don't tear it up just for you. I'm gonna get on that stage, gonna play you my very best show. I'm gonna get on that stage, gonna play you my very best show. That's right. I'm gonna get on that stage, gonna play you my very best show. 100% sweat bullet, inside out, no shoegazing. That's right, not 50, not 75. Sock it to me, sock it to me, sock it to me, sock it to me.
L'excellent choix de JC.
66 Steve, voilà, que je vous invite à aller découvrir, redécouvrir, archi-couvrir sur les internets notamment. Bon nombre de vidéos sont disponibles et notamment quelques-unes où il joue dans son atelier parce que lui-même fabrique ses instruments. Je vous le disais juste avant le morceau, c'est une guitare à une corde sur une planche à laver. Voilà, il confectionne tout un tas d'instruments dans cet esprit. Nous parlions résidence aujourd'hui, mais ça ne s'arrête pas là.
Non,
nous
non,
avons
là...
un enregistrement que tu as tourné, Nathalie.
Oui, oui, oui. Je suis allée rencontrer, pas plus tard qu'hier matin, l'équipe des professeurs de percussion du conservatoire à rayonnement départemental d'Évreux, Nicolas, accompagné de Mathieu Tessonnière, professeur en musique actuelle amplifiée au conservatoire, et également Ivana, qui est l'actuelle artiste, musicienne en résidence, elle également au conservatoire, puisque le conservatoire également accueille des musiciens venant de partout. Elle vient de Croatie, elle est croate à la base, et elle est là pour 2 ans. Au conservatoire, elle travaille sur un répertoire pédagogique pour les élèves, mais également sur des projets de création en collaboration avec les professeurs du conservatoire. Donc voilà, on a été traîner le micro, on les a rencontrés sous forme d'interview, de rencontre, où on a échangé autour de leur travail, de leur envie. C'est des artistes qui sont foisonnants et qui n'ont pas peur des projets multiples et variés.
Le work in progress, la rencontre en fin de compte, première étape de répétition à la chapelle, la cave Boudin, qui est où là où ça, le projet a pris en fait. Vous avez senti qu'il y avait quelque chose de possible
on voulait surtout rajouter un côté visuel parce que bon, c'était de la musique surtout minimaliste. Mm-hmm. Donc bon, visuellement, c'est pas il y a plus intéressant. Donc on est parti sur la danse. Il y aura aussi, on va intégrer peut-être en cette troisième année, un côté vidéo.
Voilà, mais d'autre côté, c'est ce qu'il faut, faut dire, c'est que les percus, c'est très visuel. Ouais. Quand on joue les percus, c'est toujours ça. C'est pas comme Mathieu.
C'est-à-dire
quand
il
appuie ses petits boutons, c'est très
philosophique. C'est visuel à la fois, en fait. Il y a quelque chose qui est en même temps dans le mouvement et en même temps dans l'immobilité, tu vois. C'est un peu foufou, quoi. Et du coup, pouvoir travailler sur le corps dansé en même temps, sur des rapports soit figuralistes, soit sur du contrepoint ou des choses complètement encore autres, ça amène une dimension supplémentaire, ça élève la percussion, quoi, vraiment. Et du coup, c'est aussi dans cette optique que sur la troisième année du projet, comme tu le disais, Ivana, on va sûrement intégrer un travail visuel avec du mapping 3D, c'est-à-dire de la projection sur des objets ou en tout cas utiliser les percussions comme des éléments qui peuvent recevoir la lumière et donc faire une espèce de décor imaginaire supplémentaire.
En fait, c'est pour vous dépasser
On dirait le concert ou le spectacle traditionnel lié à un concert de percus où voilà, il y a un musicien, un interprète, et c'est-à-dire comment l'instrument peut vivre autrement et comment il peut. Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi du public, du spectateur, c'est-à-dire comment on peut aussi avoir une autre vision,
fonctionné à La Chapelle, et c'est pour ça qu'on avait adoré bosser avec l'équipe là-bas, et puis justement le lieu, c'est qu'en fait comme il est très très modulable, on avait pu dessiner une sorte de très grand triangle où qui était un peu notre espace de travail primaire où il y avait vraiment deux claviers plus sur le troisième côté vraiment tout l'électronique et les gens circuler avec des petites chaises de pêcheurs et pouvaient s'asseoir et s'installer un peu où ils voulaient, sachant qu'il y avait des pièces qui étaient plus regroupées, d'autres où il y avait beaucoup de circulation, qu'on était avec un système en octophonie, c'est-à-dire qu'il y avait 8 enceintes, 8 haut-parleurs, donc du coup de toute manière les gens étaient complètement surrounded, immergés de son, et cherchaient ce genre de... ils étaient entourés par le son,
le son circulait vraiment autour, voilà, il n'y avait pas c'était, son de face
c'était, voilà, suivant les pièces c'était différent, mais c'est vrai que ça correspondait à pas mal de préoccupations qu'on avait. On a fait une version notamment de Six Marimbas, donc une pièce de Steve Reich pour six marimbas, sauf qu'on était trois, donc
six
du coup six joueurs de marimba, dont deux marimbistes et un mec qui joue pas vraiment du marimba, en tout cas pas assez pour ça, quoi. Donc
vous aimez le challenge et la difficulté.
Bah oui, c'est ça en fait, c'est mon gros problème, c'est qu'en fait je dis oui et je réfléchis après, et en fait il faut faire l'inverse, et à chaque fois quand Ivana me parle et me demande un truc, je réponds oui à Ivana, et après je regarde Nicolas et il me dit mais t'es sûr, et je dis bah c'est trop tard, j'ai dit oui, donc du coup voilà, mais au final on a réussi, mais donc c'est pour ça, des fois il vaut mieux dire oui et réfléchir après, c'est quand même, c'est plus rigolo, et donc du coup voilà, on a réfléchi à beaucoup de choses comme ça, et c'est vrai que là du coup le fait d'avoir toutes ces enceintes, ça a permis de pouvoir reproduire les marimbistes qui manquaient électroniquement, et du coup d'avoir ce que les gens ont pas souvent l'occasion de vivre, du coup, quand ils écoutent cette pièce, d'être au centre, en fait, des six marimbas. Et parce qu'en fait, comme Steve Reich, il travaille beaucoup sur le phasage, le déphasage, et puis la complexité du travail des harmoniques, où des fois, t'entends deux marimbas, puis finalement, t'entends une troisième voix qui n'existe pas par des jeux d'harmoniques. Ça, quand t'es dans le public... t'as un rapport frontal avec la musique, et du coup t'as pas la même perception que ce qui se passe sur scène, et Steve Reich il l'a créé comme n'importe qui dans une salle de percus en train de jouer avec d'autres gens, donc il était entouré de ce son là et du coup je pense qu'on a on s'en est peut-être pas tant rendu compte que ça, mais c'est vrai qu'on a permis aux gens d'avoir une approche vraiment vachement plus singulière et plus proche de ce que voulait Steve Reich, je pense, même si il y a trois des marimbas qui n'étaient pas des vrais, et là il aurait gueulé, je pense, parce qu'il aurait des vrais.
Voilà, il y avait toujours le côté humain, parce que ça c'était pas le son n'était pas synthétique, c'était l'enregistrement qu'on a fait, les marimbas, et puis il y avait toi qui gérais les entrées et tout ça, alors c'était un mélange de machines, des machines.
Oui, parce que du coup, c'est vrai que c'était diffusé, mais elles étaient quand même diffusées en direct, quoi. C'est pas, il n'y avait pas une bande d'accompagnement, et donc du coup,
il fallait déclencher les...
ça, ce qui me permettait de transpirer avec mes camarades, parce qu'il fallait que j'appuie sur les boutons au bon moment, quoi. C'est vrai que je l'ai un peu joué quand même, quoi.
Donc là, vous travaillez vraiment dans le projet de présenter un spectacle, d'avoir une production. Ou d'être dans une étape uniquement de recherche, où l'objectif c'est vraiment de créer à un moment une œuvre, quelque chose qui va être visible, présenté au public.
Oui, on a déjà bien avancé sur du coup l'univers sonore et le matériel qu'on voulait travailler, et sur aussi la grande idée qu'on veut faire passer à travers le projet, vu que le projet s'appelle Borders,
frontières,
et du coup c'est une tentative de redéfinir poétiquement ce qui peut être les frontières entre le corps, l'autre, soi, et puis du coup aussi la discipline, la musique, le visuel, la danse, et comment à un moment donné le mouvement chorégraphique devient complètement sonore, et comment finalement le mouvement qui permet de faire de la musique devient chorégraphique, donc du coup c'est une notion de frontière, et c'est rigolo parce qu'on en parlait l'autre fois, et c'est la définition même du pays qui s'appelle l'Ukraine, Kraina en russe, ça veut dire frontière, et c'est en même temps le pays et en même temps la délimitation, c'est-à-dire qu'en fait finalement la définition de quelque chose, c'est peut-être la limite de cette chose.
Voilà, il y a le côté philosophique, blablabla, mais toujours le côté très, très actuel, politique, des frontières, des réfugiés, tout ça, ce qui se passe dans le monde. Et en effet, c'est ça. On a mis en question aujourd'hui le concept de frontières. Voilà. C'est quoi
ce qui nous permettra de citer Deleuze,
définir,
est-ce
qu'il faut se définir,
et toutes ces choses fabuleuses qui ont été écrites.
Et c'est ça aussi, si c'est un spectacle fixe, si c'est un work in progress, où sont les limitations, les limites, les définitions, en effet.
On travaille sur des choses qui sont frontales, enfin potentiellement frontales pour être jouées en salle, et aussi des dispositifs qui sont plus destinés à des centres d'art contemporain ou des espaces à investir très différents les uns des autres. Auquel cas, du coup, les choses ne seront pas forcément pareilles. Et puis là, on t'a parlé beaucoup du répertoire et de pièces qu'on a utilisées, mais il y a aussi tout un travail donc, qui est tourné sur, comme l'a dit Ivana, sur la perception et la relecture de l'univers musical de son père, Igor Kolyarych, qui a beaucoup travaillé avec Luc Ferrari, notamment à la Scala de Milan, et qui a donc fait partie de cette première vague de musiciens électroniques comme Stockhausen. Et donc, du coup, c'est aussi une manière de lui rendre hommage et de retravailler, d'interroger la contemporanéité de son propos, parce que c'est vrai qu'il y a des tas de choses dans ce qu'il a écrit où on l'écoute aujourd'hui, ça paraît ça sonne pas du tout kitsch années 60, comme on peut voir, tu sais, dans la scène des tontons flingueurs, dans la scène de la... enfin voilà, ces trucs là ça reste super pertinent et actuel, et du coup c'est un truc qui est intéressant à développer aussi. Donc il y a aussi une forme d'improvisation qui est assez intense et qui, du coup, confrontée à la danse, risque de donner des choses qui seront très modulaires et assez uniques, finalement, parce que d'une fois sur l'autre ça risque de partir vraiment dans des directions différentes.
Et en plus de ces pièces là il y aura des pièces qui sont écrites pour notre duo, donc Ivana et moi, qu'on va intégrer. Donc ça va être des créations. Ça va être intéressant.
Et je voudrais insister aussi sur un autre fait, c'est que avec tous ces concerts, avec toutes ces explorations et tout ça, il y aura toujours, et il y avait la chapelle, le côté performateur technique qui était très fort. On a vraiment joué des pièces difficiles avec beaucoup de on devait avoir beaucoup de virtuosité et tout ça. Il y a le côté un peu comme ça, mais toutes ces pièces sont vraiment aussi pour les danseurs. On veut que ce soit vraiment un spectacle,
un engagement physique,
engagement musical et tout ça.
Et tout à l'heure, on a parlé de production, voilà ce qui va se développer. Il faut parler aussi de la metteur en scène, du chorégraphe. Donc il y aura quand même une équipe assez importante.
C'est une équipe, équipe artistique. Voilà. Alors, ce qui me fait rebondir justement sur la notion de résidence aussi pour une compagnie, puisque ce sont des artistes venant de partout, et d'autres. Et en quoi, pour vous, la résidence, quel est l'apport bénéfique? Quels sont les moyens mis en œuvre? Qu'est-ce que le fondement même pour vous de la résidence dans votre création artistique, c'est-à-dire les apports, la façon de travailler, le lieu, enfin voilà.
Il faut qu'on dise aussi que je suis en résidence ici. Je suis en résidence au conservatoire.
Alors, on peut peut-être, pour nos auditeurs, puisque ce sera un reportage diffusé sur les ondes de Principes Actifs, la résidence, expliquer peut-être ce que c'est le principe de résidence d'un artiste.
Vas-y.
Nicolas.
Alors, ce qu'on fait avec pour Bordeaux, c'est un peu différent. Là, Ivana, elle, en tant que musicienne, en tant que compositeur, puisque l'écrit, le conservatoire a passé une commande pour une pièce pour l'examen d'un fin de cycle. Donc voilà. Et puis elle a donné et elle va donner encore des masterclass. Donc elle vient donner des.
J'en ai déjà.
Voilà.
Deux. En coopération avec le département de musique actuelle.
Avec Mathieu.
C'était un peu plus.
Ivana, vous êtes déjà accueillie en résidence par le CRD pour un an, c'est-à-dire
deux ans. Ça, c'est la deuxième.
Et je participe aussi au concert donné par le département de Percu.
Percu à tous les étages.
À la médiathèque.
Troisième édition qu'on fait le 26 mars.
On a participé à d'autres choses aussi. À des événements.
Et donc après, il y a la résidence avec Border, ce qui est quelque chose de complètement différent. Parce que donc le but, c'est d'être, moi j'appelle ça coupé du monde, quoi. On est dans notre bulle, mmh. on essaie de rester concentré, voilà, voilà création, idée.
C'est un temps réservé qu'à ce projet, qu'au voilà. travail,
pour voilà, sortir le maximum de, voilà. De tout le monde. Quoi.
Mmh. Et pour être en résidence, il faut des lieux, des moyens, mmh. des outils, de l'hébergement.
Une idée, tout d'abord.
Bien sûr, une idée. Mais donc là, quels sont les partenaires? Enfin, les appuis. Ouais.
Mais là, c'est, là, c'est, pour... la, là, c'est la scène nationale qui est venue nous porter main forte. Donc, on va être sur, si je ne me trompe pas, sur la grande scène du Cadran. Mmh. Mmh. C'est début avril. Mmh. Voilà. Donc, tout est avec la scène nationale. Donc, les étrangers vont être logés. Je ne sais pas, dans ce, voilà, c'est, oui. tout, voilà, c'est prévu, tout est organisé par la scène nationale.
Il y aura le ministère croate qui voilà, il y a aussi de ce côté-là. Aidera sur, pour les coûts de voilà. les frais de voyage.
Il y a aussi, on est en contact aussi, puisque quand j'étais à Zagreb, je suis allé voir aussi l'Institut français de Zagreb. Donc voilà, donc il y aura énormément de partenaires. Parce que c'est quand même c'est parti d'une toute petite idée de voilà d'amener un petit visuel quelque chose de un peu plus et ça va devenir voilà si ça se passe comme on a prévu ça risque de
oui ça implique beaucoup d'artistes
voilà
ou combien de danseurs vous m'avez dit
alors ils sont danseurs. Deux mais après l'équipe voilà metteur en scène ouais. chorégraphe les lumières et tout ça, donc techniciens,
voilà, tous les, voilà. les corps de création de spectacle.
Voilà.
Bien. Et dans ces étapes, donc le projet final, vous le voyez, vous l'estimez à quelle période?
Alors on n'a pas réfléchi comme ça. Il n'y aura pas d'accord. de projet final vu qu'on on a dit que ça va être sur 3 ans. Donc en fait, ça va être un spectacle qui va évoluer. Mm-hmm. Donc on va pas attendre la 3e année pour présenter quelque chose, mais on va présenter au fur et à mesure. Mmh. Donc là, ça va être le premier contact avec les danseurs mmh. en avril. Mmh. Donc on va voir ce que ça va donner, même s'ils sont voilà, ils savent déjà les morceaux sur lesquels ils vont travailler. Et entre autres, ils vont donner, il faut le dire, ils vont donner une masterclass pour les élèves de danse du conservatoire. Mmh. Voilà, on essaye à chaque fois de
prendre le maximum.
oui, bien sûr, voilà. d'être.
Et donc
au cœur
dès,
du
voilà,
conservatoire,
dès qu'on aura la première mouture, voilà, on va essayer déjà de faire le preuve à la première 1.0. Le spectacle 1.0 mmh. et puis au fur et à mesure mmh. Voilà mmh. on a déjà pris surtout la metteur en scène a déjà pris des contacts avec des festivals de danse de théâtre en Europe donc voilà au fur et à mesure on va dévoiler voilà. comment ça s'est voulu.
Alors justement comment ça se passe parce que là on est vraiment sur ce qui est intéressant sur la maturation d'un projet ouais. la création ses étapes son travail sa constitution comment ça marche après quand on veut le faire tourner aller voir des professionnels sur une œuvre assez spécifique c'est en fin de compte dans une résidence de création vous phasez toutes ces étapes c'est il y a comme un rétro-planning il y a un calendrier très très fait
et
à
oui
l'année
et
Oui et non. C'est qu'on aura peut-être, on va voir ce que ça donne comme le résultat. Mm. Quoi. Mm. Parce qu'il n'y aura pas de spectacle fixe d'une durée d'une heure ou quelque chose comme ça. Mm. Il y aura peut-être du matériel nu, un peu comme ça, un peu de 20 minutes, quelque chose comme ça, et on fera peut-être une petite démonstration.
Oui, c'est vrai que ça, c'est.
De gens, ouais. Mais ça va être pas définitif comme ça. Alors, nous, c'est le spectacle, alors nous offrons le spectacle au producteur.
Non, on n'est pas
voilà,
dans cette idée-là.
Non, c'est l'idée vraiment de performance.
Oui,
voilà.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Et pour voir si les gens sont intéressés, bien sûr, parce que le but, c'est de créer quelque chose.
Il faut quand même pouvoir donner matière à des programmateurs aussi.
Voilà,
Voilà, normalement, à la fin de notre résidence, je crois le dernier jour, il y aura des directeurs de différentes scènes nationales qui vont venir voir des extraits. Voilà, déjà comme ça, et après, c'est nos contacts à droite, à gauche. Voilà. Et après, directement, avec les festivals.
C'est peut-être une manière plus difficile ou plus facile, je ne sais pas. C'est que, pour nous, on a dit, si on veut faire quelque chose, on est en Croatie, on est en France, on est là. Ça serait peut-être mieux de ne mettre pas des limitations comme ça. Alors là, il faut le créer, voir ce que ça donne. Si je crois qu'on aura quelque chose parce qu'on a parti comme ça, on est parti comme ça avec notre projet musical.
Voilà,
c'était la même chose.
Duo, c'est pareil,
on n'a pas mis une date fixe Après, oui, on a eu la date du concert à la chapelle et tout ça. Mais au début, on a essayé de rester ouvert et de voir, parce que si tu définis le cadre du spectacle, c'est déjà une limitation, c'est une contrainte.
Voilà. Alors, j'entends finalement que dans votre projet, c'est vraiment un projet de création jusqu'au bout, en fait, permanent.
Mais là, j'insiste toujours, c'est ce que je disais tout à l'heure, que il y aura un côté très définitif, très formateur, voilà, de base, qui sera très fort. Ça ne sera pas un pro comme ça. Voilà, c'est ce que je disais. C'est juste qu'on veut voir le contact, ces contacts entre les arts, entre les gens. On veut explorer ça et voir ce que ça donnera. Parce que eux, c'est pas un couple, mais ils travaillent toujours beaucoup ensemble, les deux danseurs. Mmh. Ils ont créé beaucoup de spectacles ensemble. Ils ont une compagnie de danse et tout ça. Ils sont très connus en Croatie. Ils ont déjà un style formé, reconnaissable et tout ça. Et peut-être qu'on veut bousculer un peu ces choses-là. Nous aussi, on a déjà un répertoire définitif et tout ça. Et puis là, on va se lancer un peu dans l'inconnu. Dans l'inconnu, et pour ça qu'on a, parce qu'on nous a dit, voilà, il y a la possibilité d'avoir les programmateurs des festivals, de leur donner, offrir le spectacle, comment ça sera et tout ça. Et on s'est dit, ben, c'est peut-être trop tôt de se mettre un cadre pour ça. Et ça serait peut-être intéressant d'avoir une opinion, voilà, si on leur donne des extraits et voir ce que ça donne pour eux. Il faut
qu'en face, les programmateurs soient bien en phase aussi avec
la conception du projet. Oui, voilà, c'est un peu comme ça.
Ça soit comme ça. Dans l'évolution aussi.
Voilà. Parce que comme ça, si tu as un spectacle déjà fixé, voilà, on a le spectacle, vous voyez le spectacle, vous voulez le prendre ou pas, c'est déjà... c'est simple. Oui. On veut compliquer.
Mathieu, en fait, vous aimez aller en dehors des sentiers battus et surtout aller en dehors des sentiers battus.
On veut se compliquer la vie. Ouais, ouais.
Ou créer autre chose, un autre façon de vivre.
Voilà.
Bien, merci. Merci de ce moment. On vous retrouvera peut-être, que je laisserai traîner le micro quand vous serez en résidence au Cadran, donc la première semaine d'avril, me semble-t-il. Voilà, on pourra refaire un autre son pour nos auditeurs.
C'est du lundi jusqu'au vendredi, ce sera le 3 ou 2, 3, 4, c'est comme ça.
Merci Vanal, merci Nicolas.
Merci à vous.
Et oui, nous ne manquerons pas d'aller... laisser traîner le micro dans cette résidence de création du 1er avril. Bien, l'émission touche à sa fin. On lance direct le petit extrait de cinéma et on vous dit au 4 mars pour notre prochaine émission de Scène de vie, vie de scène.
Exactement, et puis petite information sur l'extrait sonore de sortie, c'est un film qui sort le 26 février, merci patron, que nous engageons tous
fortement à aller voir s'il
film
passe à proximité
François
de chez
Ruffin,
vous.
Voilà, film de François Ruffin, guettez-le dans les salles parce que vous l'entendrez dans la bande-annonce, il y a peu de chances qu'il soit programmé dans toutes les grandes chaînes de cinéma, donc restez à l'affût et un film sûrement, un film à ne pas rater. Allez, nous on vous souhaite un bon mois de sortie et on vous donne rendez-vous le 4 mars.
Au 4 mars et soyez curieux en attendant.
Elle a eu la plus grosse fortune de France sur le départ. Bernard Arnault, président du groupe LVMH, aurait demandé fin août la nationalité belge.
Ça suffit, ces gens sont des parasites.
Cet homme n'a qu'une obsession, c'est de démanteler ces entreprises.
Vous avez quand même supprimé combien, 8000 emplois.
Vous m'avez l'air de lui en vouloir un petit peu.
Ah bah je lui en veux à mort parce qu'il y a plein de filles qui sont au chômage à cause de lui.
Nous on est des pions, on notre ouvrier, on était payé, c'est tout maintenant.
Quand les stars elles changent,
ça n'existe plus, c'est pour lui, c'est fini.
Mais qu'est-ce qui reste de Bernard Arnault ici?
Rien. Je regarde, c'est ça la preuve.
Comment vous faites pour vivre avec 3 euros par mois?
On mange pas.
Eh bien, on va se faire vos porte-parole.
Bonjour, on aurait voulu monter à l'étage de LVMH, s'il vous plaît. Alors, accrochez.
Qu'est-ce qu'il va chercher à faire, Robin Desbois?
Prendre l'argent et pour le donner aux pauvres.
On va aller leur défoncer, leur rager. On va arrêter là, aller faire les danseuses. Oh, merde.
Vous êtes de la part de Bernard Arnault ?
Oui, oui, je travaille chez LVMH.
Désespoir, première. Si vous ne payez pas, je fais une descente à Paris.
Vous comprenez bien qu'on ne peut pas céder à un chantage.
Là, je n'ai plus rien à perdre. Non ?
C'est nous qu'on sera les PDG.
Allez Bernard, allez. Et puis raquettez bien les PDG alors.
PDG.